Bonjour Benoît.
Bonjour Maxime.
Bienvenue dans nos studios. C'est notre dernier tour de table de cette chronique mensuelle, puisqu'on plus on avance, plus on va atteindre la fin de la saison, à la fin du mois. Aujourd'hui...
Je suis triste, là.
Mais profitons des 10 prochaines minutes.
On va en profiter au maximum.
Aujourd'hui, on parle de ce qu'on peut faire dans notre milieu, dans notre quartier, notre milieu de vie, notre milieu communautaire, concernant l'accessibilité. Hier, je me suis entretenue avec M. Danny Prudhomme, président de la FADOC, concernant le programme MADA, Municipalité Amis des Aînés. Et je trouve qu'on peut faire un parallèle avec ta chronique aujourd'hui.
Bien, ça met bien la table. C'est génial parce qu'en fait, on suit toujours la FADOC, puis on se rend compte que les besoins des personnes aînées, c'est souvent des besoins pour les personnes en situation de handicap. C'est excellent. Mais bravo pour le lien, Maxime. On est tous les deux grippés, mais on est capable de lier. Bon. Oui, donc, y a des manières de faire valoir les besoins spécifiques dans l'aménagement, entre autres, et on peut le faire à partir de ces besoins-là au coin de la rue, tout autant que dans un grand quartier, que dans toute la ville. Mm-hmm. Posons ça d'emblée. Mais moi, j'avais envie de dire d'abord, avant de parler de cette manière-là de changer, je veux juste réconforter les gens sur leurs droits politiques. Et je vais commencer avec une théorie,
si tu
permets. Il y a une chercheuse qui s'appelle Mireille Tremblay, qui a travaillé pendant des années sur la participation citoyenne de plusieurs groupes qui sont à risque d'être marginalisés, dont les personnes en situation de handicap ou même les aînés, avouons-le. Mm-hmm. Et ce qu'elle a dit en gros, c'est que dans les années 70 et après, les personnes, surtout à la fin des années 70, les personnes en situation de handicap ont vu reconnaître leurs droits civils. Ils ont eu le droit, en gros, de décider pour eux-mêmes. Imagine. Donc, le droit de choisir son traitement, le droit d'avoir un compte bancaire, bref, une existence civile. Ensuite, dans les années 80, et 90, même si ça c'est pas encore réalisé, il y a eu la reconnaissance des droits socio-économiques. On a mis en place des programmes, etc., pour que les gens puissent travailler, aller à l'école, avoir une vie normale, comme tout le monde.
Oui, et ce qui allait aider à l'égalité des chances.
L'égalité des chances, exactement. Et donc, ça veut dire pas juste décider pour soi-même, mais pouvoir accéder aux mêmes choix que les autres. Mais il y a une troisième ère dont elle parle, et c'est celle de la reconnaissance des droits politiques. On serait dans cette ère-là. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement décider pour soi, mais il faut aussi que les personnes en situation de handicap puissent décider pour l'ensemble comme tous les autres citoyens. Et moi, ce que je dis, en fait, c'est un peu notre manière, une de nos manières de procéder avec Seco. Des fois, ton coin de rue, c'est un geste citoyen que de faire des démarches dans le but qu'il soit réparé pour que tu puisses y accéder.
Absolument.
Alors, c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Donc, des exemples de préoccupations ou de besoins qu'on pourrait avoir. Hein? Bon, on a parlé, le bateau pavé, par exemple.
Le bateau pavé qui est la descente de trottoir.
La descente de trottoir, c'est un mot que
j'ai trouvé nébuleux pendant des années avant de comprendre que ça signifiait la descente de trottoir,
donc descente. Au
coin des rues pour faciliter en fait le débarquement et puis traverser la rue.
Mais en fait, des fois, c'est même juste de pouvoir circuler complètement. Imaginez quand il y a de la neige partout. On peut juste pas sortir de notre quadrilatère, par exemple, sans faire un grand tour, ou même des fois carrément passer dans la rue et donc d'être dans une situation où notre sécurité serait compromise. Mais il y a aussi l'accessibilité à la bibliothèque, par exemple, les problèmes quand on se voit refuser peut-être un chien d'assistance quand on rentre dans un lieu public, peut-être même, on peut y aller en plus macro, en plus large, des logements sociaux accessibles dans notre quartier. Donc ça, c'est le genre de préoccupation qu'on pourrait avoir pour répondre à ses besoins à soi. Mais si on s'ouvre un petit peu l'esprit, on se rend compte que ça aide aussi toute la communauté.
Tout à fait.
Alors ça, c'est dans le giron, c'est souvent dans le giron municipal.
Oui, effectivement, parce que c'est à plus petite échelle. C'est là où est-ce qu'on se rend compte qu'on peut parfois avoir plus de poids. Non, et un des moyens de se faire entendre, de faire entendre aussi nos préoccupations, nos idées, c'est de consulter nos élus, de consulter nos instances citoyennes et municipales.
Les interpeller même, puis leur dire « wow ». Ben justement...
C'est là que le processus de plainte peut parfois...
Peut aider.
Peut être utile.
Voilà. Ben moi, je vous propose même une petite marche à suivre. Évidemment, il y a des petits changements, là, tout dépendant du dossier. Mais une petite marche à suivre, vous êtes comme citoyen, mettons que vous avez un problème, votre descente de trottoir, au coin de la rue est brisé et ça handicape tous les gens du quadrilatère. OK? Mm-hmm. Donc, prenons ça comme exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier, d'après toi, Maxime?
Si je suis à Montréal, il y a le service 311 qui est, je crois, pour les travaux de la
ville. Exact, exactement. C'est le point de départ. On est mieux de commencer par là. On porte plainte, on a même un numéro d'enregistrement de notre plainte et on garde un suivi de cette plainte-là. Évidemment, ça arrive des fois que c'est long avant qu'on nous rappelle. Donc, moi, je dirais, là, si vous n'avez pas de retour après l'avoir signalé après deux semaines, trois semaines, vous êtes proactif, puis là, vous allez sur le site de la Ville de Montréal. Moi, je vous propose ça. Donc, le ville.montréal.qc.ca. Donc, vous bien notez ça. Et donc, vous allez dans arrondissement, parce que ça, c'est vraiment une question d'arrondissement. Le bateau pavé, c'est réglé localement. Là. Allez pas à l'hôtel de ville, c'est mieux localement. Donc, sur le site de la ville, si vous y allez, vous avez plusieurs rubriques au haut de la page d'accueil et vous allez repérer arrondissement. Et donc, en allant dans arrondissement, vous allez avoir toute une liste de problèmes et vous avez direction de l'aménagement, déneigement, etc. Et vous allez trouver un numéro probablement, dans certains arrondissements, pour appeler directement le service qui est responsable de votre plainte que vous avez faite déjà au 3-1.
Et si on se questionne sur quel est notre arrondissement, on peut entrer notre code postal. Ça va nous diriger pour s'assurer des fois que c'est une rue qui différencie un arrondissement d'un autre.
Ça arrive des fois une rue à côté, on plonge dans un autre arrondissement. Et donc, si on cherche le directeur des travaux publics, par exemple, ou la personne responsable du dossier. Et des fois, on tombe sur un nom. Alors, voilà. Ou encore, on peut peut-être même essayer un organisme de défense de droit. On peut les appeler à cette étape-là, leur demander « Pouvez-vous m'aider à le repérer? » Souvent, ils ont des bons noms. Donc, je pense au ROP qui peut vous diriger vers un organisme en déficience physique, en déficience visuelle, etc. Donc, vous connaissez le ROP, le regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain. Vous faites ROP.org sur leur site. Vous les appelez. Vous dites « À qui je pourrais appeler pour être accompagné pour trouver la personne qui serait responsable de ma demande. » Bon, OK. Alors là, vous pognez le directeur, il s'engage avec vous, mais là, ça tarde encore. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour faire avancer notre plainte ou notre geste citoyen?
Rendu là, j'avoue que je ne le sais pas. Moi, je serais plus du genre à abandonner, je crois.
Non!
Mais je sais qu'il ne faut pas faire ça, Benoît. Non. Éclaire-moi.
En fait, il y a eu une revendication du milieu qui a été reconnue. Ça arrive une fois de temps en temps au niveau municipal. C'est-à-dire qu'il y a un élu responsable de l'accessibilité universelle par arrondissement.
Dans chaque arrondissement,
il y en a un. Voilà. Bon. Alors, vous pouvez...
Puis il y a une chance d'être plus au courant des dossiers aussi. Donc, on ne part pas de la base. On ne part pas de zéro quand on doit expliquer une problématique.
Très, très vu, très juste. Donc, pour retrouver cette personne-là, parce que des fois, ce n'est pas public, vous pouvez contacter votre propre conseiller de district, puis lui va vous mettre en lien ou même va peut-être lui-même vous aider dans le cheminement de la plainte. Juste vous le dire, les conseillers préfèrent souvent qu'on leur parle en premier avant de mettre ça au grand jour lors d'un conseil d'arrondissement, parce qu'ils sentent un petit peu coincés quand ça arrive. Mais n'oubliez pas que vous avez toujours cette option-là. Mm-hmm. Si votre conseiller ne peut pas vous aider, vous n'aide pas, etc., là, vous allez au conseil d'arrondissement à ce moment-là et vous posez une question lors de la période de questions publiques. Et soit dit en passant, dans les conseils d'arrondissement, sauf peut-être un seul, il n'y a pas de restriction. En fait, tous les citoyens qui y vont en général peuvent poser leurs questions. Il faut se saisir de ce droit-là. C'est un lieu qui existe, puis... Vous pouvez parler de votre bateau pavé. Et là, je vous conseille d'arriver prêt. Tu sais, prenez des petites photos du bateau pavé. Puis profitez-en pour saluer le maire. Puis dire, oubliez pas les personnes en situation de handicap. Nous autres aussi, on vote pour vous.
Tout à fait. C'est un poids politique. Et surtout, si on pense, ne serait-ce que des limitations fonctionnelles, c'est 33% de la population qui vit avec une limitation fonctionnelle. Le vieillissement de la population qui engendre parfois des situations de handicap. On arrive pas mal à 50% de la population.
C'est pas rien. Tout le monde est touché, c'est ce qu'on peut se dire. Et même moi, j'ai déjà vu des gens qui sont venus vers nous, que c'était des citoyens qui présentaient pas de limitations fonctionnelles, mais qui disaient « Mais ça n'a pas d'allure. » Ils ont reconstruit une marche là, où ils ont parfait le bateau pavé. Tu sais, même des citoyens qui sont juste touchés, pas directement, le font des fois, et je trouve ça fabuleux.
Ou de manière temporaire. On oublie souvent que ça peut être de manière temporaire. incluant pour des parents avec des jeunes enfants.
Oui.
C'est des poussettes, c'est là pendant 2-3 ans, mais...
Ou même quand il y a des chantiers qui apparaissent.
Absolument.
Parce que ça devient des obstacles. Et nous, on a travaillé beaucoup à cet égard-là. Donc, vous êtes déjà rendu au conseil municipal, vous n'avez pas de réponse encore. Vous avez interpellé le maire, il a dit « Oui, j'ai fait une promesse électorale. » Et là, malgré cela, et ça arrive, je vous le dis, j'ai des copatins, malgré ça, ils ne répondent pas. Eh bien là, il existe l'Ombudsman de Montréal. Est-ce que vous connaissez ce service?
Oui, on connaît l'Ombudsman qui est toujours le gardien. En fait, on peut déposer des plaintes, faire expliquer notre situation et il y a un suivi qui est vraiment assuré à ce moment-là.
Et c'est ça, il y a une obligation de suivi. Moi, je vous dirais, je ne vais pas lancer des fleurs là, sur l'Ombudsman, mais un peu quand même, il y a une vraie sensibilité de la part de ce bureau-là aux droits des personnes en situation de handicap. Et les personnes, c'est enchâssé dans la Charte montréalaise des droits et responsabilités, cette obligation-là pour la ville de donner les services à ces personnes-là tout autant que les autres citoyens. Donc, elle, c'est une de ses prises, c'est que l'Ombudsman est là pour faire appliquer cette Charte montréalaise des droits et responsabilités-là. Donc, ça, c'est un dernier recours. Si vous avez fait tout ça, vous êtes parfaitement légitimé d'aller la voir et je vous assure, c'est un vrai poids politique. Les arrondissements n'aiment pas ça quand l'Ombudsman intervient.
Benoît Racette, c'est quand même une démarche qui demande du temps,
ouais,
qui demande de l'énergie. Pour les gens qui en disposent moins,
oui,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
Ben, allez voir un groupe communautaire. En fait, même des fois, c'est très utile parce que le coin de rue pour vous est un obstacle. Et des fois, ce groupe-là, que ce soit un groupe d'aînés dans Rosemont ou Ex-Éco sur le plateau, même si on intervient un peu partout à Montréal, ou Altergo sur les questions de loisirs et de culture, ces groupes-là, des fois, font déjà des démarches, alors ils peuvent faire entrer votre démarche dans quelque chose de plus collectif. Et des fois, ça peut même aider votre problème individuel et ça peut même aider plus largement dans un même champ. Tu sais, je pense à l'aménagement, disons, autour du métro Rosemont, par exemple, en ce moment. C'est un cas qu'on a eu, quelqu'un qui avait des problèmes à son coin de rue. Et là, on a peut-être une prise pour bien aménager tout ce qu'il y a autour du métro.
Mm-hmm.
Donc, parce qu'ils sont venus vers un organisme de défense de droits. Donc, vous pouvez faire ça.
Merci beaucoup.
Benoît Racette,
organisateur communautaire chez Ex-Éco. On peut effectivement faire appel à vous si on a besoin d'accompagnement dans ce processus de plainte, mais de critique, je dirais, de nos lieux publics. Merci d'avoir collaboré avec nous tout au long de la saison et on vous souhaite un bel été à profiter de nos quartiers, de nos lieux publics. Merci.
Merci.